Rebecca reçoit Juliette du planning familial pour évoquer le film « L'événement » qui porte sur l'avortement.
Eh oui, bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors jeudi prochain, on l'a dit, 27 janvier, le cinéma L'Arvor projettera en partenariat avec le planning familial 35 le film « L'événement » qui est un film inspiré du livre éponyme d'Annie Arnaud, dans lequel on suit le combat d'une étudiante pour avorter dans les années 60, donc au moment où l'avortement est encore interdit en France. La projection sera suivie d'un débat animé donc par le planning familial. Alors du coup, Juliette, pourquoi avoir voulu organiser cet événement et puis sur quoi aussi portera ce débat ensuite ?
Oui, alors on organise cette projection du film L'événement qui est sorti en 2021 et ben parce que c'est une bonne façon d'une part de rendre hommage à l'histoire de la lutte pour le droit à l'avortement, parce que c'est vraiment un film très fort, très riche en émotions, où on voit bien le drame que c'était, à quel point c'était compliqué d'avoir accès à des informations et d'avoir accès à l'avortement dans les années 60. Donc le film a lieu à peu près 10 ans avant la loi Veil, en 1975, à un moment où l'avortement était complètement tabou. Donc d'un côté, ça permet de se souvenir de ça et de montrer par le même temps à quel point c'est important de lutter encore aujourd'hui et de défendre ce droit à l'avortement.
Et on va y revenir justement un peu plus tard. Tu as commencé à le mentionner un petit peu, l'histoire de l'avortement. L'IVG aujourd'hui est légale en France et remboursée à 100% par la Sécurité sociale. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas, notamment sous Pétain, c'était passible de peine de mort.
Tout à fait.
Et tu l'as dit, la loi Veil en 1975 qui a permis de légaliser l'avortement, notamment suite à un combat marqué notamment par le manifeste des 343 en 1971, dans lesquels 343 femmes, dont Simone de Beauvoir par exemple, Françoise Sagan, Catherine Deneuve, déclaraient fait avorter dans l'illégalité. Et donc ça a mené justement à cette loi proposée par Simone Veil ensuite. Quel a été le rôle du planning familial dans ce combat aussi, puisque c'est né à peu près au même moment ?
Alors, le mouvement français pour le planning familial fait partie de ces acteurs historiques dans la lutte pour le droit à l'IVG, à la contraception, à l'éducation sexuelle. Donc, son ancêtre, c'est la Maternité Heureuse, qui a été fondée à la fin des années 50, dans un contexte voilà, global de mouvements qui tendaient vers la libéralisation de l'avortement, de l'éducation sexuelle, enfin tout ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution sexuelle des années 60. Et donc le mouvement français pour le planning familial, anciennement la Maternité Heureuse, s'intéressait avant tout à la planification des naissances. C'était une des premières revendications. Et donc cette maternité qui est choisie, et Maternité Heureuse, comme le disait le nom. Et dans cette dimension de planification, il y avait aussi une dimension, surtout aux États-Unis, dans l'ancêtre du planning familial, une dimension eugéniste aussi, ça il faut pas se le cacher aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été vraiment... Ce qui a été approprié par les féministes et qui fait partie de ce grand mouvement vers la légalisation de l'avortement. Et donc, autour de faits divers, hein, sur des cas très graves de morts survenus après des avortements clandestins, des infanticides aussi dramatiques, ont permis, à travers des procès où Gisèle Halimi était aussi dans la défense, on a permis de sensibiliser l'opinion publique à ce sujet et de se battre pour l'avortement et la contraception. Et donc, au sein des centres de planification familiale, au début clandestins, on pouvait avoir accès à des informations sur l'éducation sexuelle, on pouvait avoir accès à une contraception à un moment où c'était encore interdit, et comme ça, voilà, avoir accès à ces choses-là.
Et maintenant, on va revenir un petit peu à la pratique de l'IVG aujourd'hui en France. Mmh. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment elle est encadrée actuellement, cette pratique ?
Alors aujourd'hui, c'est même quelque chose dont on a entendu parler dans les informations récemment, parce que l'IVG aujourd'hui est donc autorisée jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et il y a actuellement des débats pour allonger les délais jusqu'à 14 semaines. Et d'ailleurs, il y a eu un nouveau manifeste il y a quelques mois de personnalités publiques qui ont signé une tribune pour l'allongement de ces délais. Donc aujourd'hui au Sénat, ce texte, la loi Alban-Gaillot, a été discuté par les sénateurs et sans surprise a été rejeté. Mais tout n'est pas perdu, on peut continuer en commission paritaire mixte et voilà, on reste mobilisé là-dessus. Donc le mouvement du planning familial défend cet allongement des délais parce qu'on se rend compte que malheureusement, les 12 semaines, dans un contexte où il y a parfois, dans beaucoup de régions de France, un accès difficile aux soins, ces 12 semaines peuvent parfois être trop courtes pour être à l'intérieur du délai légal de 12 semaines. Quand on pense à toutes les étapes à passer entre le moment où on a les premiers symptômes de grossesse, où on fait un test de grossesse, et le moment où on a l'IVG, il y a un tas d'étapes à passer, encore plus pour les mineurs qui ont des entretiens psychosociaux obligatoires, ce qui n'est voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais tout ça, ça fait perdre du temps. Et dans l'absence de médecins, ou dans le cas où des médecins sont peu collaboratifs et peuvent mener en bateau les personnes, eh bien, les 12 semaines peuvent être dépassées. C'est pour ça que nous, on milite et on soutient fortement cette proposition de loi Alban Gaillot sur l'allongement des délais.
Et comment se place la France, justement, par rapport au reste de l'Europe? Quels sont nos pays frontaliers, quelles sont leurs positions par rapport à ce délai?
Alors, les délais, c'est quelque chose qui est très variable et c'est là qu'on se rend compte du caractère arbitraire un petit peu de ces délais. Aux Pays-Bas, on peut aller jusqu'à 16 semaines. En Espagne, les délais sont plus longs, je ne les ai pas tous en tête. Il y a des pays où l'accès est beaucoup plus restreint, comme c'est le cas en Pologne. Et il y a même des pays dans le monde où il n'y a pas du tout de délai. C'est le cas, par exemple, au Canada. Et où il n'y a pas du tout beaucoup plus de cas d'avortement tardif. Donc on voit que cette histoire de délai est quelque chose d'un petit peu arbitraire et donc d'où l'intérêt de les allonger afin de faciliter cet accès pour les personnes qui en ont besoin.
Eh bien, on va revenir un petit peu maintenant sur le planning familial. Qu'est-ce que vous proposez au sein de votre structure pour accompagner les femmes justement dans ce choix d'IVG?
Dans les centres de planification familiale ou au sein des associations planning familial, il y a justement un côté associatif et plus militant et un côté salarié. Et du côté salarié, on a dans les centres du personnel soignant, des médecins, des sages-femmes, des psychologues qui sont tout à fait qualifiés pour accompagner les femmes et les personnes enceintes dans ce choix, de pouvoir les aider à prendre leurs décisions, mais aussi de proposer, de les orienter en fait vers un centre IVG, ou bien de faire ce qui est tout à fait possible aussi à Rennes, de faire une IVG médicamenteuse directement sur place dans le centre de planning familial. Après, au niveau militant, nous on fait des ateliers de sensibilisation, on participe aux grandes mobilisations nationales et internationales comme la journée internationale pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et on a aussi une caisse IVG hors délai. Donc c'est une caisse où on récolte des dons et avec laquelle on permet à des personnes qui sont hors délai et qui sont précaires ou qui n'ont pas les moyens de le faire à aller à l'étranger. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on a dépassé les délais, justement, eh bien la seule solution, si on veut avoir accès à une IVG, c'est de se rendre à l'étranger. Et ça coûte très cher parce qu'il faut payer le transport, l'hôtel et aussi eh bien, l'hospitalisation qui n'est pas du tout prise en charge du coup par la sécurité sociale. Et donc les personnes qui ont les moyens peuvent déjà le faire. Et nous, avec cette caisse, on attribue des fonds aux personnes dans le besoin. Et d'ailleurs, on a toujours besoin de dons. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous approcher de nous.
Eh bien, n'hésitez pas. C'est ce que j'allais justement dire. Les caisses sont ouvertes aux dons. L'IVG revient dans l'actualité. Tu l'as mentionné notamment suite au délai, à cette proposition de rallongement du délai, mais aussi à l'échelle européenne, puisque il y a eu l'élection récente de Roberta Metsola comme présidente du Parlement européen. Cette dernière est personnellement opposée à l'IVG et a notamment voté en 2021 contre des résolutions qui condamnaient l'interdiction de l'IVG en Pologne. On rappelle justement qu'en Pologne, l'IVG n'est possible que dans deux situations maintenant, lorsque la vie de la mère est mise en danger ou lorsque la grossesse résulte d'un acte illégal. Donc ça restreint fortement finalement les possibilités pour le coup. Mais malgré ça, Roberta Metsola s'est engagée à défendre les positions officielles du Parlement, donc y compris sur le droit à l'avortement. Selon toi, qu'est-ce que ça dit aussi cette élection de la fragilité des lois concernant l'IVG en Europe? Est-ce qu'on peut craindre pour ça dans l'avenir?
Oui, bien sûr. Alors cette, euh, Cette nomination, évidemment, elle est purement symbolique, on pourrait dire. Il y a pas vraiment de... Le Parlement européen n'a pas vraiment de compétences concernant l'avortement, mais c'est quand même un symbole très fort et que nous observons avec beaucoup d'inquiétude, en fait, parce que on voit bien au niveau européen qu'il y a des régressions sur le droit à l'avortement, comme vous l'avez évoqué en Pologne, mais aussi en Hongrie ou encore même en Espagne. Hein. Donc il faut rester très très vigilant par rapport à ça. Et on sait aussi, nous on observe ça de très près au planning familial, que ce sont des mouvements très très bien organisés. Les mouvements qu'on appelle anti-choix, que des chercheurs en sciences sociales appellent aussi les mouvements anti-genre, parce qu'en fait, le mot-clé genre comprend tout un tas de choses comme l'éducation à la sexualité, le divorce, la contraception, les droits des personnes LGBT, donc toutes ces choses-là que ces personnes vont combattre. Donc c'est un peu une nébuleuse d'organisations dont font partie par exemple la Manif pour tous, la Fondation Jérôme Lejeune en France. Et ces mouvements sont extrêmement organisés et essayent de semer le doute au sein de l'opinion publique avec des mots-clés ou avec des éléments de parole très très bien travaillés qui sont inspirés de ce qui se fait dans les cours internationales des droits de l'homme, donc avec un vocabulaire très positif. On ne va pas dire qu'on est contre l'avortement, mais pour la vie, par exemple. Et c'est quelque chose qui est très insidieux et qui progresse, donc il faut faire très attention. Et même en France, évidemment, le droit à l'IVG est assez soutenu par l'opinion publique, mais on voit bien dans le débat actuel sur l'allongement des délais, il y a quand même des personnes opposées à cet allongement avec des éléments de langage qui sont vraiment très proches de ce que peuvent proposer ces mouvements-là. Donc voilà, on est très vigilants par rapport à ça.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Tout ça, c'est des questions passionnantes qu'on aura l'occasion justement de retrouver le 27 janvier suite à la projection du film L'Événement. On le rappelle, il y aura un débat avec le planning familial pour en parler. Et encore merci Juliette d'être venue dans nos studios.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueillie et au plaisir de se voir la semaine prochaine pour la projection du film.